êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. On est parti déjà ? Ah ouais, d'accord. Et oui, vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique, le magazine culturel qui passe du coq à l'âne, en direct sur le 94 FM à Toulouse, ou en streaming, où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes jeudi 7 mars 2019, Vincent danse à mes côtés, il est 18h. Derrière la vitre, François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François, on est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique. Jim Bergson est un artiste solo aux accents anglo-saxons. Il est auteur, compositeur, chanteur et guitariste, né d'une rencontre entre la musique folk des années 60 et les disques indie-rock actuels. Story of a Bluebird, son premier EP est sorti il y a tout juste une semaine, le 1er mars. Il se compose de 4 titres et un bonus avec des morceaux, je cite, « sous une forme épurée proposant à la fois la légèreté des ballades folk et l'énergie des guitares électriques ». Jim Bergson est originaire de Toulouse. Son vrai nom, c'est Corentin Bergon. Et ce soir, c'est l'invité de Rien à voir quoique. Bonsoir, Jim Bergson.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM. Alors, de Corentin Bergon, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais, c'est bien comme ça. Ouais.
Il y a des sonorités en français, j'ai du mal avec le on et le ou. À Jim Bergson, qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé beaucoup. Il s'est passé surtout un mauvais nom sur une valise en voyage qui a amené un S dans mon nom de famille.
C'était un voyage d'où à où ?
C'était une croisière sur la Méditerranée. c'est ce qui m'a un petit peu donné envie de composer avec ce nom-là. Et d'une blague au départ, j'ai fini par la garder et en faire mon nom de scène. Voilà.
Et Jim,
c'est tout simplement parce qu'à l'étranger, Corentin est impossible à prononcer pour les gens. Jim me semblait le plus évident, donc j'ai choisi ce pseudo-là.
On lit beaucoup de votre musique, elle est, je cite, à la croisée des chemins. De quel chemin s'agit-il ?
De beaucoup de chemins, je pense. Elle est vraiment dans la rencontre entre la musique folk, pourquoi pas un petit peu de blues aussi quand même, et bien sûr du rock, quoi. C'est vraiment un gros mélange de ces styles-là, et je pense qu'on peut même inclure la pop également.
Je le dis souvent dans mes interviews, c'est assez difficile de définir la musique.
C'est très dur.
Donc là, on se situe entre pop. Indie,
Généralement, je j'aime pas le faire.
Je sais.
mais on pourrait dire indie folk, ouais, complètement.
Et du blues et du jazz.
Pourquoi pas, si on va un peu plus loin. Ouais.
Alors, vous composez vos premiers morceaux en 2014. C'est à ce moment-là que vous donnez votre premier concert sous la forme d'un trio.
Ouais.
Mais il n'y en aura qu'un sur cette forme-là.
J'ai eu l'opportunité de faire une très belle scène en fait pour mon premier concert. J'étais dans une salle qui s'appelle Lobo Legason qui est à Castres, qui est très très chouette. Et j'ai pris deux copains avec moi sur scène, un bassiste et un batteur. Et on avait fait un chouette concert, je pense, pour un premier concert. Et finalement, c'est une forme qu'on n'a pas gardée parce que j'ai fini mes études entre temps et voilà, tout ça a été un petit peu chamboulé. Et nos chemins ont fait qu'on a dû se séparer, mais j'en garde un super souvenir. Ouais,
et vous avez joué aussi en duo avec Antoine Duclos et Jack Rassamouelli,
ouais,
qui sont aussi guitaristes et chanteurs.
Oui, pour le coup, Antoine est complètement guitariste aussi.
Complètement.
Uniquement, je devrais dire, mais plutôt. Ouais, Antoine est un bon ami à moi aussi, avec qui justement j'ai enregistré mes titres l'année dernière. Jack, c'est un vieil ami aussi musical avec qui je joue assez souvent finalement sur scène, et qui est multi-instrumentiste et totalement incroyable, quoi, vraiment.
Vous êtes aussi multi-instrumentiste.
Oui.
Vous jouez de quels autres instruments que la guitare?
on va dire principalement de la batterie, de la basse, un peu d'harmonica, un petit peu de piano.
Et il vous arrive encore de jouer en duo ?
Oui, assez souvent, ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai pas de. Actuellement, j'ai pas une forme toujours identique sur scène. J'aime bien varier, justement, travailler avec des gens différents. Le cœur de ma musique reste la même, mais j'aime bien varier les formules, ouais.
En revanche, l'EP, c'est que des titres solo qui vient de sortir. Donc, je l'ai dit, il y a une semaine, un Story of a Bluebird, enregistré au studio de l'imprimerie à Toulouse.
Ouais. Je suis allé voir le grand gourou du studio de l'imprimerie qui s'appelle Serge Faubert. D'ailleurs, Serge, je te fais un coucou et
coucou,
je t'embrasse
Serge.
Fort. Et je suis allé le voir totalement par hasard parce que j'avais adoré certains albums qu'il avait produits les trois dernières années. Pour ne citer qu'un groupe, je dirais Amy Mine, notamment. Et je suis allé voir ce gars-là et j'ai dit, voilà Serge, j'aime beaucoup ton travail. Moi, j'aimerais enregistrer mes premiers titres en studio. Et il m'a accueilli à bras ouverts, quoi. C'était vraiment super. Il m'a super bien accueilli. On a beaucoup discuté. On a beaucoup cherché des influences communes à tout ça.
Vous aviez déjà écrit. Ils étaient prêts les morceaux
ouais,
quand vous avez enregistré.
Ouais, ouais. Les morceaux étaient prêts. Ouais.
Est-ce que vous avez été surpris par l'exigence d'un enregistrement
Ah oui. Ouais, c'est. C'est dur. Je vais pas mentir, c'est très très dur.
C'est long.
Là, on était sur une semaine de studio pour quatre titres, et c'était déjà très très court. Il fallait enchaîner tout le temps. Donc c'est ouais, on se retrouve face à ces difficultés à chaque minute quoi.
et la voix, elle reste la même pendant tout ce temps de travail. Elle doit
fluctuer
un peu, ouais.
Ouais, ça fluctue beaucoup. On se sent un peu fébrile à certains moments, mais justement, les gens comme Serge qui ont l'habitude de produire des disques, mettent à l'aise vraiment les musiciens. Et moi, j'ai vraiment été fatigué qu'à la fin de mes journées quoi. Voilà, j'ai réussi à à garder vraiment mon énergie grâce aussi à Serge qui arrivait un petit peu de temps en temps à dire non, là on fait une pause, on va boire un coup.
On va écouter un de vos morceaux d'une personne de cette EP, le morceau s'appelle Last War.
Facing the best to celebrate, yeah. The best to burst around. Just enough soul to defend them. The past all over the fences of the world, things again. And the embrace we are again. Through that I brought until the end. With the echo in my old friend.
En direct sur Campus FM, on vient d'écouter Last Wall par Jing Berson à l'occasion de la sortie de son tout premier EP, Story of a Bluebird. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Jing Berson, on vient de Jim Bergson, voilà, on vient de l'entendre vous chanter en anglais. Mm-hmm. Donc c'est quoi, la langue anglaise est le plus adaptée au folk?
Ouais, je pense que tout est résumé.
On va passer à la question suivante.
Non, j'aurais pu chanter français effectivement. Ça vient aussi
ça
voudra, de.
Ça vous arrivera peut-être.
Peut-être. Ouais, mais je pense qu'il faut. C'est un autre exercice pour moi. Il faut être à l'aise aussi avec la langue. Moi, je suis pas encore totalement à l'aise avec le français. J'aime beaucoup écrire le français, mais le chanter c'est différent. Ouais, c'est très très dur. Enfin, très très dur. C'est différent.
Alors, vos textes parlent. Là, c'était au Last War, donc la dernière guerre. Mm-hmm. Vos textes parlent d'amour, de votre rapport au monde, mm-hmm. ou du besoin constant de liberté. Quel est votre rapport au monde, Jim Berson?
C'est un petit peu une question piège, ça, je trouve. Mais... Bah, il est multiple, hein, comme toute personne qui vit dans ce monde et qui réfléchit un petit peu à comment il fonctionne. Ouais, je dirais que mes textes s'inspirent de ce que je vis un peu tous les jours, finalement. C'est aussi simple que ça, je pense. C'est mon ressenti, c'est ma manière de voir le monde. Ça peut passer comme là avec la notion d'actualité abominable qu'on a avec des conflits, avec des zones géographiques de guerre, mais
c'est ce que dit votre chanson.
Ouais, ça, bah, concrètement c'est une manière de dire qu'un jour il y aura une guerre et que tout va finir, quoi, finalement. tout va s'arrêter. Donc
est-ce que le public français comprend vos textes?
Alors c'est dur à dire. Je leur ai pas tous demandé, mais certains oui, la plupart non, je pense, parce que bon, c'est encore, on n'est pas encore un pays qui maîtrise très très bien l'anglais, mais justement, j'aime bien aussi faire cette musique en anglais pour que les gens essaient de la comprendre finalement, parce que elle aurait un tout autre sens, je pense, en français, quoi. J'aurais pas les mêmes façons de dire les choses. Du coup, je trouve ça...
Est-ce que vous pensiez que vous allez être musicien quand vous étiez petit?
Penser que j'allais l'être, non. J'ai fait pas mal de musique depuis l'école primaire, en fait. Et j'ai décidé d'en faire mon métier vraiment il y a 2 ans. Donc c'est tout neuf, c'est tout récent. Mais j'aurais jamais pensé, non, petit, faire ça, non. Je voulais être conducteur de train petit.
Ou pompier. Pourquoi la guitare, le choix de la guitare finalement? Donc vous avez dit que vous jouiez la basse, de la batterie. Pourquoi le choix de la guitare qui va bien avec la voix, j'entends?
Oui, c'est, bah, pour moi c'était l'instrument le plus évident pour m'accompagner musicalement. Ça aurait pu être le piano, ça aurait pu être un autre instrument, mais ça a été quand j'ai eu 10-11 ans, j'ai eu envie d'avoir une guitare, quoi. Ça a été vraiment j'ai bassiné mes parents, ma maman pour m'acheter une guitare pendant des mois et elle a fini par m'en acheter une.
Vous jouez l'électrique et de l'acoustique. Est-ce qu'il y a des morceaux en particulier que vous jouez avec tel instrument ou?
Ouais.
Ouais. C'est-à-dire, racontez-nous.
Disons que j'aime beaucoup l'électrique. J'ai beaucoup joué sur scène quasiment qu'électrique finalement, même en étant tout seul en guitare-voix. Parce que je trouve que c'est quand même un instrument qui a une palette énorme aussi de sons différents. L'acoustique, on est sur un instrument qui changera pas de timbre, donc bon, c'est tout de suite connoté avec un son qu'on a en tête et forcément l'aspect folk, etc. L'électrique, ça me plaît beaucoup parce qu'on peut on peut contrebalancer ça, ouais.
Donc en concert, ça vous arrive de changer de guitare suivant un morceau?
Oui, je change assez régulièrement, ouais. Faudrait d'ailleurs que je réfléchisse un peu plus à quand changer, parce que c'est parfois
techniquement
compliqué. Ouais.
Merci beaucoup, Jim. Petit jingle.
Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps.
Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Rien à voir quoique donc, chers auditeurs, le temps que Jim Berson s'installe pour un court live dans nos studios en direct, je vous propose de nouvelles divagations de Lou. Pour Lou, aujourd'hui est un jour à contre-temps. On écoute Des états d'âme sur une musique de Léo Enochi.
Aujourd'hui est un jour à contre-temps. J'essaie de marcher à contresens, contre le vent, pour qu'il me pousse encore plus fort. Mais je reste là, inerte, à me remplir les poumons. Peu importe le sens de la vague, puisque l'eau te traverse et se mêle au fluide de ton corps. Je voudrais être liquide, je voudrais être ronde, un nuage de fumée de cigarette, instantané disparu dans la poussière. Et quand tu me fais goûter du présent, je peux reprendre mon souffle. Sentir mon corps redevenir physique, redevenir chair, palpable sous tes doigts. Et je crie pour capturer le moment. Sans fin, un arrêt sur image, une photo, une peinture. Dehors, des gens marchent à contresens, le pas lourd, le cœur de pierre et les bras qui suivent. Je fais un rond avec ma bouche, je pénètre le cercle avec mon doigt, la chair à vif, la chair à caresse. Le cœur en alerte et le corps enragé de désir, compulsif, compact, incisif.
Rien à voir, quoique.
Merci Lou pour ces nouveaux états d'âme sonores. On te retrouve demain vendredi, je suis pas sûre d'ailleurs, sur les ondes de Campus FM en direct avec Thaïs pour la matinale presque ici, demain vendredi, pour la matinale presque quotidienne Milkshake et Déconfiture, c'est de 8h à 9h.
Mieux vaut penser à rien qu'une pas pensée de tout.
Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique.
Rien c'est déjà beaucoup.
Et pendant que nous écoutions les états d'âme de Lou, Jim Berson s'est installé avec sa guitare acoustique, ma foi, pour un live dans nos studios en direct. Ce live est filmé, vous pouvez nous voir, sur Facebook. Marie-Lys est en place. Jim, c'est quand vous voulez.
Love you, but I couldn't manage to see.
toujours en direct sur Campus FM avec le second morceau de Jing Bergson, dans Rien à voir quoique. Ça va ?
Ce titre s'appelle Still No Time To Die. C'est le troisième titre de l'EP Story of a Bluebird.
Merci Jim, je vous invite à remettre votre casque. Donc vous avez joué deux morceaux là, I Am Dreaming and Still No Time To Die. Alors je comprends l'anglais, mais je dois dire que j'ai pas tout suivi.
I'm Dreaming, c'est un titre qui est purement une chanson d'amour, qui retrace en fait une personne qui rencontre une autre personne, et puis cette première personne se rend compte qu'elle l'apprécie beaucoup. Imaginons qu'on rencontre son premier amour n'importe où, voilà. Et cette chanson, c'est un petit peu le sentiment qu'on va avoir, totalement absurde, de doute, de plus savoir qui on est, d'être totalement bébête face à ça. Et voilà, c'est un titre qui retrace un peu le sentiment du premier amour, quoi.
De toute façon, un petit peu l'histoire vécue, peut-être, éventuellement. On va pas faire de psycho merguez. Comment vous composez vos musiques ? Est-ce que c'est justement la musique qui vient d'abord, les paroles qui se mettent dessus ? Comment ça marche ?
Ça, c'est une super question.
Merci.
Il y a beaucoup d'artistes qui ont des formules, etc. Bon, il n'y en a pas vraiment. Parfois, je vais avoir des mélodies en tête qui arrivent et je vais de suite avoir besoin de les retranscrire sur une guitare ou sur un autre instrument auquel je vais ajouter des paroles. Et parfois, ben, j'ai des petites bribes de paroles qui me passent par la tête, des choses qui me tracassent. Je les mets sur papier et puis je me casse la tête après pour trouver une mélodie par-dessus.
Donc quand vous les mettez sur papier, elles sont directement en anglais ? Ou alors c'est des idées qui vous viennent en français ? Vous voyez le schéma
Ça dépend. La plupart du temps, c'est vrai que j'ai des phrases en anglais qui me viennent parce que... Je réfléchis pas mal en anglais. Après, c'est vrai que je regarde beaucoup d'anglais, j'écoute beaucoup d'anglais, je lis pas mal d'anglais. Donc c'est vrai que j'ai des idées parfois qui m'arrivent en anglais. Et puis d'autres fois, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que c'est une pensée en français, donc j'aimerais la retranscrire en anglais. Et puis on a la complexité de ce que je disais tout à l'heure de la langue et ça c'est un peu embêtant. Mais
vous composez où ? Chez vous ? Non, vous avez un studio ?
J'ai un petit studio chez moi, ouais, qui est tout timide hein, comme studio, mais dans lequel je peux déjà faire pas mal de choses. C'est très variable. La plupart du temps, c'est chez moi, ouais, parce que j'ai vraiment assez de calme, j'ai vraiment besoin de calme en fait, de pouvoir passer du temps à réfléchir. Et donc c'est vrai que c'est chez moi. Après, si je voyage, ça peut être sur la route, ouais. Ça peut être sur la route. Et là, effectivement, il y a d'autant plus de choses qui vont venir. Au jour le jour, me sauter à la figure et donc forcément.
Vous emportez toujours une guitare quand vous voyagez ?
Ça dépend, j'essaye. j'ai eu plusieurs fois des dates ailleurs où j'ai pas pu emporter mes instruments. Et
le deuxième titre compliqué. Que vous avez joué, pardon, c'est Still No Time to Die. Donc j'ai entendu que c'est l'histoire d'un poor guy, un pauvre homme. C'est tout ce que j'ai compris. En fait.
C'est déjà beaucoup.
C'est pas mal. Hein,
c'est déjà beaucoup. Oui, complètement. Ouais. Ben, c'est très second degré. C'est une chanson qui m'est venu quand j'étais vraiment dans la galère au départ de mon projet. Bon, je suis toujours, mais c'est moindrement et je vis beaucoup mieux. Mais au départ, c'est vrai que j'étais un petit peu dans la galère. Je devais faire différents jobs. C'était pas évident. Et je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont que ça, en fait, qui n'ont que ce mauvais job-là que moi j'avais. Et ça m'a retourné, quoi. Je me suis dit, en fait, ouais, ça pourrait être quelqu'un qui vit sa vie et qui a rien dans son frigo, qui a rien dans ses placards. Mais il a un boulot, quoi. Mais il a ce boulot-là. Voilà, c'est un peu ça l'histoire de cette chanson, quoi. J'ai rien du tout, mais j'ai un boulot, quoi. Voilà.
Quel est le moment que vous préférez, la composition, vous êtes tout seul chez vous, la scène ou la promotion de votre EP?
Le studio, c'est toujours exaltant. Toutes les 3 minutes, on est surpris. Toutes les 3 minutes, on se dit « Waouh, c'est génial !» Du coup, c'est vrai que j'adore ça, vraiment. J'aimerais pouvoir y passer tout mon temps, quoi. Être un Beatles de la musique et sortir que des albums studio. La scène, c'est super plaisant aussi. Et à la fois, parfois, c'est dur, quoi. Parfois, c'est dur parce qu'on sait jamais trop où on met les pieds. Il y a des salles où ça se passe très bien et d'autres où on fait notre set et ça prend pas du tout et là c'est dur quoi, enfin c'est vraiment donc je dirais que je préfère pas l'un ou l'autre, mais ouais, si je devais choisir quand même pour l'éternité, je dirais le studio
plus que la scène. Ouais, être avec son public
pour le moment, oui.
Ouais, pour le moment,
ouais. Pour le moment, oui, c'est vrai que
parce que vous avez fait pas mal de dates l'année dernière en 2018.
Ouais, ben ça a été vraiment une année un peu charnière, quoi. J'ai foulé des super scènes, quoi. J'ai eu l'occasion de jouer des premières parties qui étaient incroyables. Donc ça a été, ouais, face à beaucoup de gens, ça a été incroyable. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait je finissais par plus me poser de questions une fois sur scène et tout coulait. Et puis de toute façon, les gens prennent ce qu'on a à leur donner. Donc
vous avez été en finale de Décroche le son.
Ouais.
C'était au Métronome l'année dernière. C'est un tremplin musical organisé par les centres culturels et d'animation de la mairie de Toulouse, qui confronte les jeunes talents musicaux à la scène professionnelle. Je vous laisse boire un petit verre d'eau. Est-ce que ça vous a aidé ? Et en quoi ?
Oui, clairement. Ben, ça m'a pas aidé au sens propre du terme, où j'ai rien eu à l'arrivée, en fait, j'ai rien gagné. Mais pour moi, c'était déjà d'y être, en fait, et d'arriver en finale, j'avais déjà tout gagné. C'était intense. J'ai été confronté justement à la scène à 20 minutes de set, donc très très court, et où il fallait rentrer dedans directement. Et ça m'a vraiment appris en fait à me libérer, quoi. Après ça, je me suis dit mais y a pas de pression nécessaire en fait. Enfin, personne n'est là pour juger ce que j'ai à faire. Et du coup, c'était incroyable pour ça.
Est-ce que vous voulez nous jouer un autre morceau ou pas?
Ouais, on peut en jouer un dernier.
On peut jouer Road Song.
On va jouer Road Song alors. Ouais.
On est sur Campus FM. Marie-Lys est toujours là à filmer ce live de Jing Bergson dans Rien à voir quoique en direct à l'occasion de son EP Story of a Bluebird qui vient de sortir il y a une semaine.
Road Song, c'est un titre qui est un petit peu plus vieux et
Il est dans votre EP, hein.
Il est dans mon EP,
en,
oui.
En bonus.
C'est un titre bonus qui est un titre live qu'on avait enregistré dans un tout petit concert très intimiste.
Et qu'avez-vous entre les dents, là? Je vois pas bien.
Pour ceux qui ne me verraient pas, j'ai un harmonica avec moi pour m'accompagner.
On vous écoute.
J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur de mon accordage, puisque c'est...
Si, on vous en tient rigueur. Ce sera parfait.
C'est malheureusement des instruments qui
se désaccordent entre deux morceaux. On est en direct, n'a rien à voir quoique, sur Campus FM à Toulouse.
Thank you.
Merci, Jing Bergson. Ça, c'était Road Song. Donc, vous disiez un morceau plus ancien.
C'est je pense, un des premiers, ouais, que j'avais composé, justement, avec mes fameux collègues du trio de l'époque. Et c'est un titre qui parle un petit peu de l'illusion du voyage dans notre vie de tous les jours, de se sentir un peu enfermé, d'avoir envie de pousser un peu les murs, quoi. J'aime beaucoup le jouer ce titre parce qu'il est un petit peu intimiste et
oui, il est plus doux.
Et il est plus doux et il permet un peu d'apaiser les gens.
Ça marche ?
Ça marche.
Si j'en crois les internets, vous avez obtenu en 2016 un master art du spectacle, communication et médias à l'université de Toulouse. Mmh. Ça vous sert dans votre parcours de musicien ?
Pas du tout, non.
c'est pas si loin.
Ouais, tous les étudiants, voilà, vous pouvez arrêter tout de suite et faire de la musique. Non, je...
Vous avez, je vous ai pas posé la question, vous avez étudié la musique, la guitare, le chant?
Alors, pas la guitare, ni le chant. Enfin, le chant, je prends des cours assez régulièrement.
Toujours?
Depuis peu. Parce que j'ai eu envie de connaître un peu mieux aussi l'organe qu'est la voix et de le maîtriser un petit peu mieux.
Comme un instrument, quoi.
C'est un instrument, en fait. Hein, c'est le premier instrument que tout le monde a, finalement. Et non, la guitare, j'ai appris en autodidacte, mais comme toute forme d'apprentissage, après, je dirais que mes études, ça m'a servi. Ça me sert tous les jours, en fait. Non, mais c'est pas une blague, ça me sert tout le temps, c'est... Clairement. Quoi dire d'autre?
Non, mais précisément, dans le art du spectacle, communication et médias.
Disons que bon, je vous cache pas que j'avais des matières qui me servaient absolument à rien, hein, bien entendu, mais non, ça m'a servi à réfléchir, en fait. Ça m'a servi à beaucoup réfléchir parce que je me suis tourné vers des artistes ou même des écrivains ou des personnes d'art en général que j'aurais peut-être pas découvert sans avoir fait ce parcours-là. Et bien entendu, ça m'a ouvert l'esprit, énormément, quoi.
Vous avez plein de dates prochainement. Le 15 mars, vous êtes à l'Antidote Café Théâtre à Pinzagel. Mm-hmm. C'est pas très loin de Toulouse. Le 21 mars à Bordeaux.
Oui.
Ah, c'est aussi un Antidote.
Oui, il y a beaucoup d'Antidotes.
C'est un mauvais copier-coller. Non,
c'est un.
Donc ça, c'est à Bordeaux.
Réalité.
Le 12 avril à l'Évasion, à Saint-Michel, à Toulouse.
Ouais.
Et puis à Aix-en-Provence aussi, le 24 mai. Ça, mm-hmm. c'est vos prochaines dates de concert. Donc en solo pour cette EP.
Oui. Voilà, je serai principalement solo. Il se peut qu'il y ait des petites surprises après au fil de la route. Mais voilà, il y a peut-être d'autres dates d'ailleurs qui vont s'ajouter à tout ça.
Et vous
très
avez
rapidement.
D'autres projets après, j'imagine, ouais.
Mais déjà, il y a beaucoup de dates qui sont en train d'être bookées. Donc je vais beaucoup jouer, je pense, jusqu'à facilement septembre, octobre prochain. Et je suis en train d'écrire aussi, bien entendu. Des nouveaux morceaux et sans arrêt pour essayer de faire un album le plus prochainement possible si les finances le permettent.
Merci beaucoup, Jing Bergson. On était très content de vous avoir en live dans Rien à voir quoique. Donc je rappelle que votre premier EP, Story of a Bluebird, il n'y a pas de titre qui s'appelle comme ça.
Non, c'est un dérivé du titre qui s'appelle Bluebird.
Ah oui, qu'on va écouter derrière, ouais. Vient de sortir. Donc il est disponible en téléchargement sur moult plateformes.
Exactement. Et en CD aussi.
Voilà. Oui, chez Gibert notamment à Toulouse.
Chez Gibert notamment,
et partout. Je remercie également Lisa Labatte de l'agence de développement artistique 3PA, votre booker.
Ouais, complètement. Gros bisous Lisa.
Gros
si
bisous Lisa. À la préparation de votre venue, vous avez un site jingberson.com et les réseaux sociaux.
Voilà.
Lequel vous utilisez le plus?
Je suis principalement sur Facebook et Instagram. Voilà. Après, je suis pas très Twitter, malheureusement. C'est bon. Ça pourrait me servir, mais je suis un peu réfractaire, j'ai beaucoup de mal.
Faut être présent.
Donc, je préfère pas forcer le truc et rester sur les bons vieux Facebook et Instagram qui sont déjà bien importants dans ma vie.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique.
Rien, c'est...
c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup.
Il est temps à présent de retrouver, oh, la belle rime Vincent. Salut Vincent.
Salut Anna, bonjour Jim. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Un plaisir de revenir toujours. Alors pour commencer, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, petite interrogation surprise. Savez-vous,
merci Vincent.
Anna, Jim, combien il y a d'étudiants en France?
Non.
Alors, sachant qu'il y a à peu près 67 millions de Français dans le pays... Une estimation, à peu près.
Étudiants, donc à l'université.
Qui sont en formation.
Ouais.
Qui sont en formation.
Jim, peut-être plus.
Moi, j'aurais dit 10 millions.
Nous avons un 10 millions.
Non, c'est beaucoup.
Sur ma gauche.
Marie-Lise.
C'est beaucoup.
Anna consulte un expert. 10 millions plus moins, Anna.
Ah, moins.
Non, moins, beaucoup moins.
Bah oui.
Beaucoup moins.
Moins. Alors la réponse... Combien tu dis?
Deux.
Entre deux et six.
La réponse est 2 680 000. Bravo Anna.
C'est déjà.
Ça fait à peu près donc 4% de la population française. Alors ces étudiants, ils sont répartis dans des universités, bien sûr, comme ici à Paul Sabatier où se trouve le studio de campus, mais aussi dans des IUT, des écoles préparatoires, des établissements privés, publics, etc., etc. Et parmi eux, il y en a une petite partie qui prépare un diplôme un peu particulier. Je veux parler du doctorat. Le doctorat, vous savez, c'est le diplôme qui est tout en haut de la pyramide des diplômes que vous a forcément présenté un jour le conseiller d'orientation au collège. Alors en France, il y a à peu près 58 000 doctorants, donc ça fait 2% de l'ensemble des étudiants, si vous suivez. C'est pas beaucoup, et en plus ce chiffre est en baisse régulière depuis une dizaine d'années. Alors ces doctorants qui sont si peu nombreux, qui sont-ils, que font-ils, comment vivent-ils, que deviennent-ils? On pourrait faire une thèse là-dessus, ou bien plus simplement s'intéresser aux doctorants tels qu'ils sont représentés au cinéma. Et oui, le thésar, aussi ennuyeux soit-il, est un personnage qui revient finalement assez régulièrement au cinéma, et surtout dans le cinéma français. Alors première particularité, à l'écran comme dans la vie, ce qui caractérise le doctorant évidemment, c'est son sujet de recherche qui, et c'est un euphémisme de le dire, ne passionne pas toujours tout le monde au premier abord. Comme dans le cas du personnage de Camille, joué par Agnès Jaoui dans le film « On connaît la chanson » d'Alain René. Camille, c'est une doctorante en histoire et je vous propose de l'écouter présenter ou plutôt chuchoter son sujet de thèse à un inconnu, une vague connaissance qu'elle vient juste de rencontrer dans une bibliothèque universitaire.
Vous, vous avez un métier à part...
Je prépare une thèse d'histoire.
Ah, sur quoi?
Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru.
Ah ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien que quelqu'un en parle.
Voilà, c'est bien que quelqu'un en parle, répond le personnage. Vous aurez peut-être reconnu André Dussolier. Un peu décontenancé, il faut dire aussi que le sujet est assez précis. Hein, les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. C'est vrai que c'est pointu, mais c'est souvent comme ça en fait. Un sujet de thèse, quelle que soit la discipline, c'est long, un peu pittoresque, avec des mots étranges. Les gens trouvent ça bizarre, et d'ailleurs Camille, ça finit par l'agacer, que personne ne la comprenne. Écoutez.
Mais, excuse-moi, mais... Il y a des gens que ça intéresse ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, hein?
Pour faire parler les cons.
Pas comme lui.
Alors là, on la sent un peu sur les nerfs, hein, notre doctorante. Et d'ailleurs, elle finira le film carrément déprimée.
T'es pas contente? Ils vont publier ta thèse, c'est quand même quelque chose.
Tu fous, Odile, de choisir paysans de l'an 1000. L'acte de Paladru, je t'en parle même pas. On travaillait 7 ans sur un truc qui doit intéresser 15 personnes maximum.
Tout le monde s'en fout des chevaliers paysans, et pourtant, derrière son sujet sibyllin, le thésard est un véritable érudit dont les connaissances ne se résument certainement pas à un point de détail aussi improbable qu'inutile. Ça, c'est plutôt un cliché qui lui colle à la peau. Le sujet de thèse, c'est l'arbre qui cache la forêt, d'une culture qui est en général bien plus étendue. Encore faut-il, pour y accéder et en profiter, prendre le temps d'un réel échange et d'une réelle discussion avec un doctorant, et je vous y invite, si d'aventure vous aussi vous en croisez dans les rayons de la bibliothèque, ou bien une autre solution, c'est d'allumer sa radio et d'écouter l'une des nombreuses émissions scientifiques de Campus FM. Je pense à 20 mg de science, le NITPI, Cap sur les labos, Stimuli, Du pain sur la tranche, le Labo des savoirs, j'en oublie certainement, ils me pardonneront. Alors vous l'aurez compris, l'une des particularités du doctorant, c'est de se sentir assez seul. Seul avec son sujet qui l'obsède tellement qu'il s'en rend parfois malade, un peu comme le personnage de Paul Dédalus dans le film « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle » d'Arnaud Desplechin. Paul Dédalus, il est doctorant en philosophie et il n'en finit pas de ne pas finir sa thèse et de se disputer avec sa copine. Écoutez.
Bah oui, je suis enragée parce que tu m'enrages. T'es comme une moule, tu pèses 2 tonnes.
Je sais, parce que t'es énervée.
Non, je suis pas énervée. Je n'ai pas des humeurs comme une météo de merde. Et ça fait 3 ans que je dois rendre ma thèse. C'est idiot, mais je fais une dépression, là. Regarde-moi. Compare avec Nathan ou Bob. Je deviens raté. Je rate ma vie.
Alors, vous l'avez entendu, le personnage, interprété par Mathieu Amalric, d'ailleurs, c'est l'un de ses premiers rôles, fait carrément une dépression. Alors, c'est un cas extrême, évidemment, mais néanmoins révélateur des difficultés psychologiques que rencontrent certains doctorants. Une étude de 2003 concluait même qu'un 1/5 des thésards développe un stress pathologique, c'est vous dire. Mais alors, me direz-vous, pourquoi font-ils ça? Si l'écriture d'une thèse est si éprouvante, pourquoi diable s'engager dans une telle besogne? Quand on leur pose la question, les doctorants, en général, ont une réponse assez vague, assez mystérieuse, un peu comme le personnage de Margot dans le magnifique Conte d'été d'Éric Rohmer.
Tu veux faire quoi exactement? Ton doctorat, ça te donnera quoi?
Rien du tout. Même pas forcément le droit de faire de la recherche. Enfin, j'ai ma petite idée, mais c'est trop tôt pour en parler.
Alors s'ils sont si souvent énigmatiques sur leur motivation et leur projet, c'est que les doctorants considèrent bien souvent le doctorat comme une expérience à part entière et non uniquement comme un simple passage obligé pour accéder à une hypothétique carrière universitaire. Les thésards aiment leur thèse, oui oui, et c'est peut-être parce qu'ils savent qu'au-delà des caricatures et de l'image de douloureux sacerdoce qu'elles véhiculent, eh bien le doctorat c'est aussi une enrichissante aventure intellectuelle et humaine pendant laquelle ils peuvent enfin se consacrer pleinement à un sujet qui les passionne, et on en a tous au moins un. Et puis surtout, inscrire leurs réflexions dans le temps long. La thèse c'est long, ça prend du temps, et finalement c'est tant mieux. À l'heure du zapping généralisé, le doctorant a le privilège, ce n'est pas rien, d'avoir le temps de réfléchir. Bref, pour découvrir plus en profondeur le petit monde du doctorat, je vous invite à écouter, réécouter le programme Ma thèse en 18 minutes, qui est une série d'autoportraits radiophoniques de doctorants et de doctorantes de l'université de Toulouse. La première saison a été diffusée cet automne sur Campus, et elle est bien sûr réécoutable sur le Mixcloud de la radio, www.mixcloud.com/campusfm.
Merci, docteur. Oh oui, si. On va écouter, comme il nous reste un peu de temps, le morceau de Jim Person. Donc celui-ci s'appelle Bluebird.
Bluebird flying away in the morning. Flying away from home, over the sky.
everything. Everything.
Écoutez Bluebird par Gene Bergson sur son dernier EP qui vient de sortir. Et il est maintenant l'heure de se quitter. Un grand merci, Jim, d'être venu et d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Dr Vincent.
Merci, Anna.
Merci beaucoup, Maraïs, pour le live sur Facebook. Merci Lou et merci François à la réalisation technique de l'émission et à la post-production. Et oui, François, c'est lui qui prépare aussi le replay que vous pourrez retrouver dès demain à l'aube sur la plateforme Mixcloud. Je vous laisse, chers auditeurs, en compagnie de Malcolm Mike et pas très loin pour une nouvelle émission gourmande de New Soul Food. C'est du new, c'est de la soul, c'est de la food. Très belle soirée sur les ondes de Campus FM.